The Sharif don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. Sharif don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. Now over at the temple, oh, they really pack them in. The in crowd say it's cool to dig this jamming thin. But as the wind changed direction, the temple band took fire. The crowd caught a whiff of the crazy Casbah. Chime, Sharif don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. Sharif don't like it. Lounge the Casbah, rock the Casbah. The Bedouin, they brought out the electric camel drum. The local guitar picker got his guitar picking thumb. As soon as the Sharif had cleared the square, as soon as the Sharif was showing out of there, the jet pilot tuned to the cockpit radio blare. As soon as the Sharif was out of their hair, they began to wail.
Vous êtes sur Radio Libertaire et vous écoutez Radio Lab à l'heure du goûter. Il est 16h35 à peu près et je laisse Alex présenter l'émission.
Je ne sais pas si on m'entend bien. Ok, bah du coup, aujourd'hui c'est la reprise des émissions parce que ça fait plusieurs mois qu'on n'en a pas fait, vu que la CGT, ils ont la bonne idée de mettre toutes leurs manifestations sur notre créneau de radio, hein, parce qu'ils ont peur qu'on devienne trop populaire dans la lutte. Du coup, aujourd'hui, on arrive avec un nouveau format qu'on va vous présenter plusieurs fois dans les prochaines semaines et les prochains mois, a priori. Aujourd'hui, on a avec nous Sacha de l'association antifasciste 77. Et voilà, du coup, pendant 1h30, on va faire un petit, une petite présentation de ce qu'est l'AFA 77, leur lutte et leur terrain de lutte. Voilà, donc je te laisse te présenter.
Donc, salut à toutes et à tous. Donc moi, comme ça a été dit, c'est Sacha de l'association antifasciste de Seine-et-Marne, du 77. Qui est aussi le plus grand département de Seine-et-Marne.
D'Île-de-France.
Enfin, d'Île-de-France, oui, d'Île-de-France. Et on est aussi la seule AFA de France, à notre reconnaissance, à être constituée en tant qu'association. Et on a fait ça pour diverses raisons, que ce soit des raisons légalistes, et aussi dans une vision de la banalisation de l'antifascisme, et d'assumer notre position antifasciste auprès des populations locales et surtout de l'administration afin de faciliter le dépôt de manifestations ou ce genre de choses.
Ok, bah, peut-être pour commencer, tu peux nous parler un peu plus de depuis quand ça existe cette association et comment est-ce que vous luttez à votre échelle.
Alors, elle a été créée il y a un peu plus de 3 ans. Avec comme objectif initial de créer un 8 mai antifasciste, qui a été le premier objectif à court terme, mais que, pour lequel il y avait le désir de réitérer cette expérience chaque année. Et donc elle avait un objectif, comme je l'ai dit plus tôt, de banaliser l'antifascisme, de aussi d'essayer de créer un genre de repère en Ile-de-France, ou en Seine-et-Marne plutôt, dans une vision antifasciste et radicale, pour les luttes sociales à gauche, essentiellement. Et on s'était souvent rendu compte, de façon individuelle, que beaucoup de gens de Seine-et-Marne montaient sur Paris pour la lutte en général, que ce soit les manifestations ou l'organisation d'autres actions, de plein de choses au quotidien. Et on s'était dit qu'une action antifasciste en Seine-et-Marne permettrait de regrouper justement une bonne partie des gens qui viennent de Seine-et-Marne et qui luttent sur Paris pour essayer de délocaliser la lutte. Et ce qui était intéressant, c'est que cette idée, on l'a eue à plusieurs sans se connaître en amont. Et je pense que c'est un vrai problématique auquel on voulait répondre en Seine-et-Marne.
Ok, ouais, c'est vrai que, bah, comme tu l'as dit, c'est le plus grand département d'Île-de-France. Il y a des villes, il y a quand même une grosse partie qui est beaucoup plus rurale. Et le problème, c'est que, bah, comme c'est plus collé sur Paris, comme tu l'as dit, la plupart des gens, ils avaient plus Paris comme terrain de lutte. Et du coup, sur quel terrain est-ce que vous vous mobilisez? Est-ce que c'est plus dans les grandes villes du 7-7 ou est-ce que c'est... Enfin, comment est-ce que vous vous répartissez tout ça? Parce que c'est quand même vachement grand comme, comme département.
Nous, on a l'ambition, qui est peut-être un peu grande, mais on essaie de la maintenir le plus possible, d'être présent sur toute la Seine-et-Marne. Après, forcément, on a des contraintes qui sont essentiellement des contraintes de déplacement, notamment vis-à-vis de l'infrastructure, des transports en commun ou ce genre de problématiques, qui fait qu'on est surtout présent dans les grandes villes, aussi parce que c'est là où il y a le plus de personnes qui vivent et que c'est aussi là où on va avoir le plus d'impact, le plus de résonance. Après, ça nous arrive assez souvent d'avoir des signalements dans les zones rurales, par exemple, mais pas que, des signalements de tags fascistes, de problèmes, d'événements fascistes qui sont organisés par Reconquête, ce genre de choses, et sur lesquels on nous demande d'intervenir. Et dans ces cas-là, on essaye le plus possible de se mobiliser. Ce n'est pas toujours une réussite, parce que la lutte n'est pas faite que de réussite, mais on essaye de se mobiliser partout où on nous fait des signalements. Ensuite, au-delà de ça, on essaie de se mobiliser donc, essentiellement sur l'antifascisme. Mais pour nous, l'antifascisme, ça implique plein de choses, que ce soit l'anticapitalisme ou les luttes contre en fait, n'importe quelle forme de discrimination. Et donc, on essaye de créer aussi un réseau de lutte avec d'autres collectifs, que ce soit des collectifs sénémarnais ou non. Et on est souvent présent par du tractage, du collage d'affiches, des contre-manifestations, des actions de blocage ou des tentatives pour être plus précis. Et on essaie aussi de propager de la culture antifasciste. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire, comme ça déjà arrivé sur Twitch par exemple, de faire des lives pour présenter des livres antifascistes. On essaye aussi de mettre en avant d'autres associations qui vont mettre à prix bas, par exemple, des livres qui vont parler du voyage de certains réfugiés, ce genre de choses.
Ok. Et du coup, ouais, vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux, de ce qu'on a vu. C'est un truc qui est assez important d'être présent sur les réseaux sociaux et autant que dans la rue, en fait. Sur un département qui est du coup aussi où il y a des points qui peuvent être aussi éloignés les uns des autres.
Ouais.
Comme bah, t'as parlé de signalement, etc.
Ouais. Et ben, en fait, une grosse partie de nos actions sont faites dans un but de visibilisation de l'antifascisme et d'une présence antifasciste. Et cette visibilisation se fait essentiellement par les réseaux sociaux. Mais on a remarqué à plusieurs reprises que ça suffit pas et qu'être sur le terrain à la proximité, que ça soit des luttes ou de la population en dehors des moments de lutte, c'est assez important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas, ou qui ne nous connaissent pas en tout cas sur les réseaux sociaux. Et pour reprendre une expérience qui nous était arrivée, on était intervenu lié à un problème, lié à des tags fascistes, et il y a beaucoup d'étudiants, de personnes qui nous ont vu intervenir et qui ont pensé qu'on était de notre action antifasciste. Et en fait, ces gens ne savaient pas qu'on était présent sur Internet, et c'est lorsqu'on les a rencontrés ultérieurement qu'ils ont découvert qu'on était présent sur Internet, qu'on était une autre action antifasciste, etc. Et voilà, je crois que j'ai à peu près répondu à ta question, si je ne dis pas de
bêtises. Ouais, ouais, ouais. Comment ça se passe, la lutte antifasciste, dans ce département-là, comparé à d'autres départements? Parce que c'est vrai que le 7-7, comme on l'a dit, c'est un département qui est vachement rural à certains endroits, et puis tu as aussi beaucoup de places fortes de l'extrême droite dans ce département-là, avec notamment l'Action française qui est très présente à certains endroits. Comment ça se passe pour essayer d'imposer une présence antifasciste dans ce département-là, du coup?
Bah, y a quelque chose qu'on a pu remarquer via les élections qui est assez intéressante et pas surprenante, j'ai envie de dire. C'est que... plus on s'éloigne des réseaux de transport en commun et notamment des RER D et A, plus les votes tendent à droite. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on essaie d'être très présent dans les grosses villes parce que c'est une grosse ville que la population est majoritairement à gauche. Et donc c'est là où on a le plus d'impact. Et comme ça a été dit, en fait, il y a beaucoup quand même de places fortes parce que même si on reste près des lignes de RER, plus on s'éloigne aussi de Paris, plus c'est de droite aussi. Mmh. Et Fontainebleau, qui peut être une ville quand même assez grande, est une ville quand même très à droite.
Oui, c'est à ça que je pensais, surtout.
Ouais.
C'est vrai que c'est très... très occupé par l'extrême droite, ce terrain-là, notamment Fontainebleau, mais même d'autres villes. Comment est-ce que vous vous y prenez pour essayer de rendre visibles vos luttes dans cet espace-là?
Sur le territoire fasciste, on est obligé de travailler avec d'autres collectifs, d'autres groupes ou d'autres organisations, notamment syndicales, parce qu'on n'a pas la force pour aller mettre une présence explicitement antifasciste. On peut faire des choses simples comme du collage, du tractage, mais le problème, c'est qu'il y a une grosse présence de base d'extrême droite ou d'idées très réactionnaires par la population dans ces zones-là. Et il y a aussi une présence d'extrême droite militante qui sont souvent prêts à réagir assez vite fait. Et notamment dans le cas de Fontainebleau, par exemple, on sait qu'il y a des militants d'extrême droite qui sont partis sur des zones de guerre pour s'entraîner et se préparer à la guerre civile en France. Et on sait aussi que globalement, une bonne partie des réseaux fascistes qui se retrouvent sur Paris sont très souvent présents en Seine-et-Marne. Et on sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes que ça essaie de recruter dans le Seine-et-Marne et qu'il y en a qui viennent d'autres régions, carrément parfois, et qui viennent en Seine-et-Marne pour essayer de retrouver certains potentiels fascistes qui seraient prêts à passer à l'acte.
Ouais, donc c'est quand même assez. Une tâche qui n'est pas forcément facile de s'imposer en tant que collectif antifasciste. Tu as parlé de liens avec d'autres collectifs. Comment est-ce que vous envisagez ces collaborations entre différents acteurs de la gauche, qu'elles soient radicales ou pas, comment ça se passe du coup, votre vision?
Nous, notre but, c'est d'essayer de travailler avec la plupart des orgas sur une base qui est plutôt affinitaire, mais aussi en termes d'efficacité. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple concret, vu que là on a déclaré une manifestation pour le 8 mai antifasciste, justement, on a décidé de travailler avec la CGT 77 et avec Sud CT 77, parce que c'est des gens qu'on a pu rencontrer, avec qui on a pu travailler déjà en amont sur d'autres projets qui étaient parfois faits plus dans l'urgence ou non, et on s'est rendu compte que c'était des gens avec qui c'était efficace de travailler, avec qui il n'y avait aucun problème, tout était dit, tout était clair. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème idéologique ou d'action qu'ils ont pu mener, qui nous ont posé problème. Et après, je ne sais pas trop. Après, en dehors de ça, ça nous arrive aussi de travailler. Donc là, c'est un autre sujet qui est assez vaste. Avec certaines personnes de Europe Écologie Les Verts. Parce que c'est un parti qui est finalement très divers et y a certains de leurs militants qui sont finalement très radicaux, notamment des militants locaux. Et donc ça nous arrive de travailler avec des membres d'Europe Écologie Les Verts qui tiennent des propos très radicaux, qui nous font plaisir à entendre et avec qui c'est simple de travailler parce qu'on a un objectif similaire. Après, on a essayé de travailler avec d'autres collectifs aussi avec qui on a pris contact. Qui sont des collectifs écologistes, parce que la Seine-et-Marne, c'est un département qui est extrêmement agricole, mais dans lequel il y a énormément de projets d'urbanisation. Il y a notamment, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, des projets de méga-bassines qui sont prévus en Seine-et-Marne, alors c'est pas encore très clair. Et après, la plupart de ces collectifs-là, on n'a pas eu de. Les liens ne se sont pas maintenus juste parce qu'il n'y a pas eu de tentative de maintien des liens. Mais on sait que ces différents collectifs sont prêts à se mêler ensemble, entre guillemets, pour des actions communes s'il y a besoin. Imaginons qu'il y a des méga-bassines en Seine-et-Marne.
Ouais, c'est l'exemple que j'allais prendre. Imaginons qu'il y a des projets de méga-bassines, comme on a pu voir récemment à Sainte-Soline, et qu'il y a des grosses mobilisations. On imagine que vous serez vous mobiliserez sur ce terrain-là aussi avec les collectifs locaux. Ça va de pair avec le sujet que je voulais aborder après, mais du coup, on a vu que vous étiez quand même de temps en temps sur Paris, pas que en Seine-et-Marne, notamment pour des manifs et aussi pour des événements qui vont être par exemple des concerts ou ce genre de choses. Du coup, ça fait lien un petit peu avec comment. Enfin, une partie de vos. De votre champ de mobilisation, c'est-à-dire être présent à des événements, être présent à des concerts, tenir des tables. Du coup, ça fait partie aussi de comment vous financez votre association. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les liens entre vous et des collectifs qui peuvent être pas de Seine-et-Marne, des collectifs parisiens ou votre présence ailleurs qu'en Seine-et-Marne?
Ouais. Je pense, et à mon avis c'est partagé par les restes des membres, qu'il y a besoin de créer un réseau de solidarité. Et ce réseau de solidarité ne doit pas se limiter à un secteur local. Donc ça, je pense, c'est la première réponse sur le fait de pourquoi aller sur Paris et pourquoi rencontrer d'autres collectifs, d'autres militants. Et je pense aussi que même si notre but initial, c'est de délocaliser la lutte de Paris, la plupart des grosses villes ne sont pas évitables.
Mmh. Ouais, c'est compliqué de décentraliser complètement, quoi.
Ouais, c'est ça. Et donc, ce qu'on fait, généralement, je vais prendre l'exemple, par exemple, des grèves les jeudis dans la semaine. C'est que nous, généralement, on essaie d'être présents en manifestation locale en cinéma le matin. Et l'après-midi, comme d'ailleurs une bonne partie des syndicalistes, on monte sur Paris. Mmh. Ça, c'est un exemple pour les mobilisations pure et dure. Pour reprendre l'exemple des concerts, les concerts, il y a plusieurs buts à ça. Le premier, c'est de créer des connexions avec les autres collectifs, les autres militants pour se rencontrer. C'est aussi une occasion où d'autres personnes qui ne sont pas membres de collectifs ou d'organisations peuvent venir nous rencontrer, ou sans vouloir venir nous rencontrer, qui nous découvrent tout simplement. Mmh. C'est aussi l'occasion, comme tu as évoqué, justement, pour le financement de vendre du matériel qu'on vend sur place. Donc ça va être essentiellement du matériel à prix libre, ça va être des stickers, des drapeaux, des affiches. Dernièrement, on a commencé à essayer de revendre à prix libre aussi des livres qui proviennent d'une autre association, qui sont dont l'argent revient à des écoles, principalement en Afrique, dans le but de financer l'éducation là-bas. Et après, on vend aussi du matériel sur Internet, cette fois-ci pas à prix libre parce qu'il y a des contraintes d'Internet, pour faire simple. Mais du coup, on vend à peu près le même matériel qui a été produit par nous-mêmes sur notre site Internet. Et après, pour le reste, je dirais que les concerts, c'est... La lutte doit aussi y avoir des moments de festivité, parce que sinon on se met vite à déprimer, on a besoin de se décontracter, de faire la fête, de s'amuser, etc., dans des conditions comme un minimum cadré. Et souvent ces concerts, c'est aussi des concerts en solidarité, c'est-à-dire qu'il y a, nous on se fait de l'argent, mais le concert il va être aussi la plupart du temps à prix libre, ce qui fait que l'argent destiné au concert va permettre de soutenir des personnes pour différentes raisons. Mmh. Et donc je pense que c'est aussi important d'être là, parce que même si c'est pas sûr qu'on puisse faire venir beaucoup de monde, petit à petit, on va dire un petit collectif plus un petit collectif plus un petit collectif, ça meute quand même beaucoup de monde, ce qui permet de ramener pas mal d'argent.
T'as assez bien répondu à ma question. Je pense. C'est vrai que c'est assez important, du coup, d'avoir des liens dans une scène qui est alternative et qui est, du coup, propice à se mobiliser dans les luttes de gauche. On en a parlé un petit peu, enfin, tu l'as déjà évoqué, les mobilisations du 8 mai. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu... en quoi ça consiste, et après on évoquera celle de cette année qui est bientôt, mais peut-être d'abord nous faire un petit topo de en quoi ça consiste, etc. Ouais.
Je pense que globalement, la plupart des personnes, au moins à gauche, ont conscience qu'aujourd'hui, le 8 mai, c'est une date qui a surtout été repris en tant que symbole un peu nationaliste, chauvin. On va surtout y voir une glorification de la nation, de l'État, ce genre de choses. Alors qu'à la base, c'est une victoire contre le fascisme, contre le nazisme, etc. Et on pense, en fait, il faut rappeler que c'était ça à l'origine, le 8 mai, qu'il faut continuer de lutter contre ça et qu'on ne doit pas laisser d'espace, le moindre d'espace pour qu'un risque fasciste, imaginons que ce soit simplement un petit risque, puisse émerger. Et il faut continuer de combattre contre n'importe quelle loi, qu'elle soit raciste, qu'elle soit homophobe, peu importe les lois qui sont discriminantes ou qui mènent à un état fasciste, on pense qu'il faut les combattre. En ce moment, il y a plein de problèmes, évidemment, mais il y a la loi Darmanin qui est censée arriver. Donc justement, c'est typiquement, on veut montrer que si on veut fêter ou célébrer plutôt le 8 mai, il faut aussi s'impliquer contre la loi Darmanin, qui est une loi clairement fasciste, menée par un fasciste, qui était justement membre de l'Action française plus jeune, comme, vu que justement on parlait de l'Action française présente en cinéma.
Ok, bah du coup, ouais, c'est, cette année, c'est quoi? C'est la troisième fois que vous organisez cet événement-là?
C'est ça. Donc là, on le fait le 8 mai à Melun, à 14h sur place Saint-Jean. Les dernières années, on les avait fait du côté de Torcy. La vie, pour faire simple, la vie militante, faut dire, a fait qu'on ait de meilleurs liens, de meilleures connexions avec les syndicalistes du côté de Melun. Donc on a préféré retravailler avec des gens à qui on a confiance, des gens qui sont efficaces, que de travailler avec des gens qui idéologiquement sont problématiques pour nous, qui en termes d'efficacité sont très limites, et surtout qui parfois ne veulent pas spécialement travailler avec des antifascistes, parce que même si nous on veut lutter contre cette image, enfin contre une des images qu'est l'antifascisme, c'est que l'antifascisme c'est souvent réduit à une image un peu de casseur. C'est aussi réduit à une image de mascu. C'est réduit à plein de stéréotypes, pour faire simple, qui sont problématiques. Et on veut un peu briser ces codes-là et montrer à d'autres, aux autres secteurs de lutte, aux autres organisations de lutte, que toutes les luttes doivent être antifascistes, car à partir du moment où on laisse une idée fasciste s'immiscer dans nos luttes ou qu'on la tolère, ça va mener à la destruction de toutes les luttes et à l'interdiction de lutter, tout simplement.
Mmh. Ouais, bah du coup, on l'a un petit peu abordé, mais votre collectif, il a une approche intersectionnelle de la lutte contre le fascisme et contre les oppressions en général. C'est un truc qui se retrouve pas mal déjà dans le matos que vous vendez, parce qu'il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Bon, bien évidemment, la lutte contre le fascisme, mais aussi la lutte contre les LGBT plus phobie, contre les lois racistes et pour les migrants. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve, comme tu l'as déjà évoqué, dans vos différents terrains de mobilisation. T'as parlé des luttes écologiques et aussi des luttes contre les lois racistes, justement, tu parlais de la loi Darmanin. C'est un truc qu'on retrouve également sur vos réseaux, sur vos communiqués. Et il me semble que même sur votre chaîne Twitch, vous aviez invité Abba l'Écra pour une émission. J'ai l'impression quand même que c'est un de vos gros domaines de lutte, la lutte contre les centres de rétention, contre les lois racistes. Et là même, le 8 mai du coup prochain, vous allez vous mobiliser contre la loi Darmanin. Pourquoi comment ça a fait que vous vous mobilisez sur ce terrain-là particulièrement? En plus du reste des luttes qu'on a évoquées déjà.
Je pense que l'antifascisme, ça implique évidemment de mener une lutte contre les lois racistes et contre les projets racistes. Et malheureusement, on est dans une époque où le racisme tend à se banaliser. On est dans une époque où le fascisme, même de mon point de vue en tout cas, progresse. Et donc, il faut savoir que dans le 7-7, il y a un projet d'extension de CRA, Omeni-Lamelo.
L'ECRA, si vous ne savez pas, c'est Centre de Rétention Administrative.
Voilà,
c'est des prisons pour personnes sans papier.
Et c'est des prisons pour des personnes, justement, comme ça a été dit, sans papier, en sachant que de base, les personnes sans papier sont beaucoup moins considérées, n'ont pas les mêmes droits, sont invisibilisées. Ce qui signifie que de base, on sait que dans les prisons classiques, il y a de la violence, il y a énormément de problèmes, mais il faut s'imaginer que dans ces CRA-là, les problèmes sont décuplés. Faut savoir qu'on peut y enfermer des enfants, des mineurs, parce que on va en reparler d'ailleurs dans le projet de loi Darmanin, les mineurs sont pas forcément reconnus comme tels à cause de tests, des fameux tests osseux qui sont des tests pseudo-scientifiques qui datent de très très longtemps, on était presque 100 ans maintenant. Et il y a énormément de CRA qui sont prévus en construction. Il y a aussi les LRA qui sont sensiblement pareils. Alors, j'ai oublié ce que ça signifie. C'est les... Non, c'est plus, c'est pas grave. Ouais, et c'est des prisons pour nous, dans lesquelles on enferme des personnes sans papier, mais on ne les enferme pas parce que c'est des personnes qui ont commis des crimes, simplement des personnes qui peuvent être sous OQTF et qui peuvent être interpellées. Et comment on se trouve sous OQTF ? Et bien, si on est sans papier, qu'on se fait contrôler, on a quasiment automatiquement un OQTF. Et donc, si on se refait contrôler après avoir reçu cet OQTF, on est envoyé dans un CRA. Et une fois dans un CRA, on est censé être expulsé au bout de 3 mois. Les expulsions ne sont pas systématiquement faites parce qu'il y a entre guillemets des problèmes pour envoyer les personnes de là où elles sont censées habiter, ce genre de choses. Donc généralement, on les refait sortir du CRA au bout de 3 mois, mais elles ont toujours cette OQTF. Mmh. Ce qui fait que ces personnes peuvent toujours retourner dans un CRA plus tard. Il y a aussi, à cause de la pandémie du Covid, le problème qui était les tests PCR, qui était du coup pas vraiment un problème dans ce cas-là, puisque ça servait d'outil pour résister. Mais il y a pendant les confinements, il y a énormément de personnes des CRA qui se sont retrouvées en prison parce qu'elles ont refusé le test PCR, car le test PCR était obligatoire pour embarquer en avion. Mmh. Et une fois en prison, une fois qu'elles sont sorties de prison, elles retournaient dans le CRA, une fois dans le CRA, elles retournaient dans le prison, et ça pouvait durer pendant, pour certaines personnes, pendant 2 ans.
Ouais, donc c'est des institutions qui participent au harcèlement systématique des personnes sans papier. Tu as parlé des LRA, du coup c'est lieu de rétention administrative, c'est comme des CRA mais temporaire a priori. Mm. Pour les personnes qui suivent un peu l'actualité, c'est beaucoup utilisé depuis quelques jours dans le cadre de l'opération Wombushu à Mayotte, donc à peu près dans la même veine, c'est-à-dire que Mayotte étant un département d'outre-mer qui est situé proche des Comores et qui a même été volé à la France par les Comores, qui a été volé aux Comores par la France, pardon. Il y a beaucoup de migrants comoriens et du coup il y a une grosse opération menée par Darmanin avec des centaines de gendarmes, des CRS, des militaires, notamment la CRS 8 qui est les super CRS de Darmanin. Et qui est du coup une grosse opération anti-immigration et de harcèlement constant des personnes sans papier. Et du coup, ils créent des lieux de rétention administrative pour pouvoir expulser le plus de sans-papiers possible. Donc c'est quelque chose qui est plus que jamais d'actualité, on peut le dire. On a parlé un petit peu de la loi Darmanin tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu en quoi elle consiste cette loi et pourquoi est-ce que vous vous mobilisez contre ?
Ouais, alors il faut savoir que actuellement la loi Darmanin, elle n'est pas clairement déposée. Il y a pas mal de débats en interne, notamment à cause du conflit actuel sur la réforme de la retraite, qui fait qu'ils veulent éviter de recréer des problèmes, donc ils veulent faire un peu retarder cette loi-là. Mais globalement, c'est dans la loi, dans les choses qui sont prévues, plus ou moins actées, enfin presque actées, le fait de retirer le droit du soin, donc c'est le nom technique, c'est l'AME, c'est l'aide médicale, et j'oublie ce que signifie le E. Mais en gros, c'était le fait que n'importe quelle personne sans papier, enfin, ou n'importe quelle personne universellement, puisse se faire soigner. Le fait de retirer ce droit, qui est un droit universel en fait,
l'aide médicale d'État, je crois.
Ouais, ça doit être ça.
Il me semble.
Le fait de retirer ce droit aux personnes sans papier, il faut savoir que c'était un projet qui était dans le programme de Zemmour et de Marine Le Pen. Donc voilà, ça c'est une première image de ce qu'on voit qui permet de comprendre vers quoi on se dirige. Donc il y a ce problème là, il y a le renforcement des tests osseux qui permet de savoir si oui ou non une personne est réellement majeure ou non.
En théorie.
Oui, en théorie. Ouais. Ce que j'allais dire justement est que, alors je ne connais pas tout le procédé scientifique parce que c'est pas mon domaine, mais il faut savoir que ce test osseux, il a été inventé il y a environ une centaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. Et que ça permet, c'est un test qui en plus de base était raciste scientifiquement, qui avait des biais racistes qu'on a conservé aujourd'hui et qui est censé déterminer l'âge d'une personne, ou en tout cas l'âge d'une personne. Donc il y a ça qui est censé être renforcé. Alors pareil, j'ai oublié les noms techniques. Mais il y a le regroupement familial qui va être très très restreint, voire interdit. Ce qui permettait en fait des personnes sans papier de faire venir leur famille une fois qu'ils avaient leur papier, une fois qu'ils étaient résidents français. Il y a aussi, alors j'ai oublié un des éléments. Parce que donc, en plus de ça, forcément, il y a l'augmentation de la construction des CRA, il y a la facilitation des expulsions. Ah oui, c'était ça l'un des piliers, on va dire, de la loi Darmanin. Actuellement, c'était le projet d'obtention des papiers conditionné au recrutement dans des secteurs en tension. Et donc, ça, exactement, ce serait pour obtenir un titre de séjour. Ce qui fait que des personnes sans papier pour obtenir un titre de séjour, donc résider temporairement en France, à condition de travailler dans des secteurs sous tension qu'on leur aurait imposé. Le problème, il est que c'est un titre de séjour qui serait valable un an, et une fois que ce titre de séjour-là est fini, il faudrait le renouveler. Soit il n'est pas renouvelé, la personne se retrouve en situation d'irrégularité, et donc sans papier. Soit elle continue entre guillemets heureusement pour elle et elle a une situation qui est légèrement plus stable. Le problème c'est
mais qui est conditionnée du coup à un travail qui est imposé et
c'est ça et surtout que c'est dans un but purement d'exploitation ouais, d'utilisation des sans-papiers parce que dès que le secteur le métier n'est plus en tension il y a plus de raison de donner le titre de séjour et donc les personnes seraient automatiquement renvoyées chez elles alors qu'elles seraient revenues.
Ouais, bah, c'est, oui, on l'a bien vu. C'est quelque chose qui est connu, mais qui a été vraiment mis sous les projecteurs pendant le Covid. C'est que la plupart des métiers difficiles, que ce soit les éboueurs, les gens qui travaillent dans les restaurants, les gens qui font des métiers pénibles, c'est beaucoup de sans-papiers. Ça fait extrêmement longtemps que c'est le cas, mais c'est quelque chose qui est du coup qui va être systématisé par la loi en fait. Et du coup, merci d'avoir fait un petit topo de cette loi là. Je pense qu'on comprend assez facilement pourquoi c'est important de se mobiliser contre ça. Et du coup, c'est principalement, enfin c'est la revendication principale de ce 8 mai antifasciste. Dans la continuité du coup de ce qui est à l'origine le 8 mai que vous organisez ça, c'est ça ?
Ouais. On a réfléchi un peu sur les différentes thématiques parce que malheureusement il y a des thématiques qui sont aussi des thématiques fascisantes. On pensait au SNU. Il y a aussi la loi Kashbarian qui concerne aussi les personnes sans papier mais pas que. Et on a choisi parce que en concertation notamment avec les autres organisations syndicales. Que la loi Darmanin, c'est un peu de la mobilisation autour de la loi Darmanin et que les organisations syndicales souhaiteraient justement en lancer une en Seine-et-Marne et que le 8 mai antifasciste serait l'occasion de démarrer cette mobilisation dans toute la Seine-et-Marne. Là où justement ça fait plaisir parce que c'est un peu comme une victoire de notre côté, une réussite dans dans notre objectif de radicalisation, c'est qu'ils y réfléchissent en interne, mais ils n'avaient pas vraiment le projet, ou ils n'avaient pas la motivation, la détermination de passer à la concrétisation de la mobilisation. Et c'est un peu notre présence et le fait de les avoir contactés, leur avoir dit venez, on organise ça, contre cette loi-là, qui a mené à se mobiliser sur cette thématique-là. Donc on le co-organise uniquement avec la CGT et Sud-CT, mais d'autres syndicats seront présents au 8 mai, et d'autres syndicats du coup veulent prendre part à la mobilisation contre la loi Darmanin. En sachant que la loi Darmanin, il y avait déjà eu une tentative dans le passé ou des choses similaires, et qu'il n'y avait eu aucune mobilisation des syndicats en Seine-et-Marne.
Donc, c'est vrai que même au niveau national, il y a peu de mobilisation sur ces terrains-là. Surtout en ce moment, comme l'espace politique il est saturé par la lutte contre la réforme des retraites et plus globalement la lutte contre le gouvernement, il n'y a plus beaucoup de place pour les luttes pour l'immigration et contre ces lois-là. Et c'est même quelque chose qu'on remarquait avant, en fait. C'est que c'est un gros problème de la gauche classique, on va dire. C'est qu'il y a beaucoup moins d'implication
dans ces luttes-là parce que pour plusieurs facteurs, notamment parce que bah, la plupart des gens ils se sentent pas forcément concernés. C'est pour ça que c'est très important du coup de visibiliser ces luttes-là et d'y prendre part. Si je me trompe pas, après-demain il y a une marche des solidarités. En solidarité avec les personnes sans papier et contre la loi Darmanin. C'est des marches qui sont organisées relativement fréquemment et qui malheureusement ne sont pas aussi massives qu'on pourrait qu'on pourrait espérer. Lié à ça aussi, bah du coup samedi ça va être une grosse journée de mobilisation pour vous parce que du coup il y a la marche des solidarités l'après-midi et le matin il y a le SNU qui vient faire son cirque dans le 7-7.
Ouais.
Peut-être tu peux nous en parler un petit peu.
Pour faire simple, il y a la fameuse caravane du SNU qui est tout simplement là pour faire la propagande du SNU qui évidemment doit passer en le 7-7 et donc va peut-être passer en plusieurs villes. Mais pour l'instant, c'est uniquement Torcy à B2. Et donc, il y a différentes organisations qui appellent à la mobilisation contre le SNU à Torcy. Et le rendez-vous pour les personnes qui seraient intéressées serait entre 10h30 et 10h45 à B2, qui est un centre commercial. Donc, ça serait devant le centre commercial contre les caravanes du SNU. Et ensuite, l'après-midi, justement, il y a la marche des solidarités à laquelle on sera présent. Donc normalement, ça devrait être visible à travers nos drapeaux sur deux choses. Il y a des personnes qui veulent venir taper la discussion.
Ouais, bah du coup, c'est des luttes qui sont. Enfin, finalement, c'est là qu'on se rend compte que c'est des luttes qui se rejoignent. Parce que d'un côté, il y a la lutte contre la loi Darmanin et contre les lois anti-immigration et le système anti-immigration d'un côté. Et de l'autre côté, le SNU, qui est un système d'embrigadement de la jeunesse, finalement. Et c'est. Ces deux facettes en fait d'un pouvoir qui est fascisant et qui cherche à préparer le terrain à un pouvoir fasciste en fait et donc c'est pour ça que c'est assez important de lutter sur ces deux terrains là et ça fait évidemment le lien la mobilisation contre le SNU ça fait évidemment le lien avec toutes les mobilisations qu'il y a en ce moment avec l'interville du Sbeul et toutes les mobilisations contre la réforme des retraites et le gouvernement en général. Du coup, je pense que c'est un bon exemple de plusieurs terrains de lutte sur lesquels vous êtes. Voilà, on a parlé un petit peu de la lutte contre les LGBT-phobies tout à l'heure, des luttes écolo. Voilà.
Vu qu'on a une approche vraiment intersectionnelle, c'est-à-dire que c'est pas seulement de nos actes. Enfin, c'est. Forcément dans nos actions que ça se traduit mais on pense vraiment que toutes les problématiques sont liées d'où le concept d'intersection et que on est obligé de se mobiliser sur toutes les luttes pour des histoires d'énergie tactique etc c'est totalement légitime que certaines organisations certains collectifs ne luttent que sur une seule question. Mais je pense que le jour où on arrivera à ce que tout le monde se mobilise sur tout, je pense que ce sera un peu le jour où on aura gagné. Je pense que le jour aussi où tout le monde se mobilisera sur tout, ce sera un peu le jour où le fascisme n'aura plus d'espoir d'exister.
C'est vrai que c'est, c'est assez. Enfin, c'est un porteur d'espoir, on va dire. Je pense que ça illustre assez bien comment vous menez la lutte, tout ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a. De fait de l'intersectionnalité, plusieurs terrains de lutte et aussi plusieurs acteurs de lutte. Comme tu l'as dit, vous vous mobilisez avec des collectifs qui peuvent être des syndicats ou des collectifs plutôt légalistes jusqu'à des collectifs plus radicaux et moins légalistes, justement. Comment est-ce que vous gérez cette approche-là, ces deux côtés finalement du grand parapluie qu'est la gauche.
Ouais.
Où est-ce que vous vous positionnez là-dessus en tant qu'association?
Nous, notre objectif, un de nos objectifs, c'est d'être une genre de passerelle entre au sein de la gauche. pas une passerelle sur laquelle on marche, pas une passerelle qu'on piétine, quoi. mais c'est, on veut créer du lien entre, au sein de la gauche, en Seine-et-Marne essentiellement, et dans un but aussi de pousser les collectifs ou les organisations qui sont pas trop à gauche, enfin, plutôt centristes ou libéraux, mais, enfin, mm-hmm. ouais.
Et, plutôt SOSDEM.
Ouais, plutôt SOSDEM, plutôt social-démocrate, et du coup de les pousser vers la gauche plus radicale. Donc c'est un peu notre... Enfin, je sais pas si ça répond bien à ta question.
Ouais, ouais. Ok, bah du coup, je sais pas trop quels aspects tu veux aborder vis-à-vis de l'association.
Bah, après, vis-à-vis de l'association, je pense qu'une chose qui est intéressante qu'on avait réussi à mettre en place, parce que j'ai beaucoup dit au départ qu'on voulait banaliser, vulgariser l'antifascisme, qu'on voulait le rendre plus accessible, plus populaire, en fait. On a commencé à travailler avec des maisons des associations. Non, des maisons de la jeunesse, la citoyenneté, mais c'est des maisons d'association.
L'MJC, en
fait.
Ouais.
C'est ça, l'MJC. Et qu'en fait, ça s'est notamment rendu plus facilement accessible parce qu'on a le statut d'association. Ouais. Et donc, à travers ça, on a pu organiser des projections de documentaires, courts-métrages, ce genre de choses, sur des thématiques. Donc, par exemple, la lutte kurde, sur, enfin, et après, on a d'autres projets de prévus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des moments, des lieux où le public n'est pas du tout le même que dans des publics de concerts de soutien, dans lesquels les publics les concerts vont surtout y avoir un public très à gauche, très d'extrême gauche même, alors que dans des MJC, il va y avoir un public beaucoup plus SOSDEM, voire peut-être même des gens de droite, je ne sais pas, c'est pas improbable.
Peu politisé en tout cas.
Ouais, ça peut politiser, qui viennent pour découvrir quelque chose, pour en apprendre plus sur un sujet. Mmh. Et puis on peut surprendre ces gens-là parce qu'on va exposer quelque chose de plus à gauche ou les exposer à des sujets auxquels ils n'étaient pas du tout conscientisés. Et ça fait partie des actions qu'on veut mener, qu'on veut répéter pour banaliser l'antifascisme.
Je sais pas si vous avez si vous en avez organisé d'autres, mais on a vu du coup que vous aviez co-organisé un événement à la MJC de Logne,
ouais.
Sur l'histoire du Kurdistan et les luttes kurdes.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous...
Bah ça, on l'avait co-organisé avec l'association des travailleurs immigrés de Turquie, et donc avec forcément la MJC de Logne. Donc là, ce qu'on avait organisé, c'était tout simplement une projection d'un court-métrage, d'un documentaire qui parlait de la lutte... plus des conditions de vie, en quelque sorte, des Kurdes en Turquie, et qui parlaient un peu de leur culture, de leur histoire aussi, beaucoup leur histoire, parce qu'après, il y a eu un moment un peu conférence. Et à la fin, pour les plus gourmands, il y avait un buffet. un buffet qui était assez sympa, qui était justement, donc forcément un buffet kurde, qui était préparé par des chefs kurdes. Et donc tout ça, c'était à prix libre. Donc c'est inclus forcément le fait que ce soit gratuit. Et dedans, il y avait, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait justement beaucoup, un public qui était très large, qui était un public pas du tout militant. Il y a des personnes qui pouvaient avoir des problèmes avec la thématique, donc kurde, qui avait été exposée. Et finalement, bah, ça a permis de créer des liens entre ces gens-là et une remise en question de la vision des Kurdes comme un groupe, un peuple terroriste, entre guillemets. Donc il y a ça qui est organisé. Après, on essaye aussi de faire d'autres choses. Donc là on voudrait essayer pour les prochaines fois, essayer de créer une soirée similaire avec buffet. Bon, pour le thème du buffet, je ne sais pas ce que ça sera. Mais pour le thème de la soirée, ça serait sur l'LGBTQ-phobie.
Okay.
Donc ça, c'est à voir en discutant. Il y a plein d'idées parce qu'après, il faut aussi voir avec la MJC quand est-ce qu'elle peut, quand est-ce qu'elle est d'accord avec les sujets. C'est comme eux qui restent... les personnes qui vont décider au final, les patrons en quelque sorte.
Ouais, bah c'est un peu un bon exemple d'ouverture un petit peu et de popularisation de l'antifascisme, ce que tu évoquais tout à l'heure. Et puis c'est vrai que c'est assez différent finalement de cet entre-soi qui peut y avoir dans les milieux militants. Ouais, moi, je pense à ce niveau-là, c'est assez intéressant comme initiative. Surtout que ça permet de partager de la culture militante, comme on l'a déjà évoqué, dans un département qui n'est pas vraiment axé là-dessus en général.
Je sors parce que tu as parlé du fait que c'était il y avait un autre soi militant. Mmh. Et je pense que parfois, on peut presque parler quasiment de sectarisme ou ce genre de choses. Parce qu'il y a. C'est très très dur de rentrer dans la lutte militante en général, mais antifasciste, je pense, en fait partie, quand on n'a aucune personne qu'on connaît qui est déjà dans ce milieu-là. Et je sais que nous, il y a beaucoup de gens qui sont venus vers nous en disant s'être fait, entre guillemets, recaler par d'autres groupes, ou qui ont juste payé des réponses, qui se sont fait snobber, ce genre de choses. Parce que, étant donné que les personnes qui avaient contacté d'autres groupes antifascistes, il y avait personne qui connaissait, c'était entre guillemets inconnu au bataillon, et du coup ils les ont refusés en se disant on peut pas lui faire confiance, et donc nous on a pris un peu ce pari de se dire même si les gens on les connaît pas, même s'il y a personne qui les connaît, on apprend à faire connaissance, on voit comment ces gens la pensent, et s'ils sont ouverts d'esprit, et après on décide de travailler ou non avec ces gens là et la plupart du temps ça s'est bien passé. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des gens révolutionnaires, qui n'ont pas le but, comme but de refaire la commune, ce genre de choses, et qui pourtant se sont intéressés à nous, sont venus vers nous en se disant, aujourd'hui, le fascisme est un problème qui est réel et il faut s'organiser de combattre. Et ce qui peut passer souvent par soutenir les groupes antifa locaux. Voilà.
Ok. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure aussi, mais je voulais y revenir sur le militantisme vraiment local.
Ouais.
Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec des groupes fascistes locaux de Seine-et-Marne, où vous avez déjà été appelé à un endroit où il y a eu... je sais que, par exemple, vous aviez organisé un contre-rassemblement à Melun il y a quelques mois contre la venue d'une association satellite de Reconquête.
Ouais.
Comment est-ce que ça se passe? Et déjà, est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce genre de choses? Et si oui, comment est-ce que vous prenez la chose?
Ouais. Pour ce qui est des de la prison fasciste, on s'était fait attaquer justement 8 mai précédent par un groupe de fachos d'une dizaine proches des Zouaves et du GUD. Ils ont réussi à en attraper deux d'entre nous. Donc, faut savoir qu'on forcément n'était pas préparé mentalement. Effet de surprise, quoi. Ils ont gagné grâce à l'effet de surprise. Et au fait qu'on était des bases dispersées, on était pas, on était loin les uns des autres. Donc, victoire facile, entre guillemets. D'autant plus qu'ils étaient venus évidemment armés. Pour ce qui est de la contre-manif à Melun dont tu as évoqué, je pensais notamment celle-là parce que c'est un exemple assez sympa. De l'organisation qui s'est fait très rapidement avec des syndicalistes, notamment la CGT 77, qui ont été extrêmement réactifs. Il y a plein de camarades de différentes organisations qui sont venus, que ce soit essentiellement des organisations antifascistes, mais donc de l'AIM, du PQA, d'autres camarades et parisiens et parisiennes. C'était une contre-manifestation qui s'est organisée en moins d'une semaine. Au final, c'était principalement des personnes âgées, très réac, très bon, ça c'est évident.
Qui étaient en face, du coup.
Ouais, qui étaient en face, j'ai oublié de le préciser. Et donc, ils étaient là sur une place avec leur drapeau, à scander leur slogan avec leur banderole. Et donc, une banderole faite en usine, je pense. Alors que nous, on était avec notre banderole fait maison, mais qui était tout aussi belle. Et au final, on était plus nombreux qu'eux. En sachant qu'on a organisé ça en moins d'une semaine, la manif n'était pas déclarée, les syndicats ont dit on s'en fiche qu'il ne soit pas déclaré, on ne peut pas laisser l'extrême droite manifester chez nous. Donc une réaction antifasciste des syndicats, ce qui fait très plaisir, ce qui n'aurait peut-être pas lieu dans n'importe quel lieu, enfin ça, je pense que ça dépend largement des syndicats, même au sein de la CGT. Et donc il y a ça qui a eu lieu. Ensuite, en dehors de ça, on a souvent été appelés liés à cause de tags néo-nazis. Très souvent, on les a repérés autour des écoles, des lycées ou des collèges aussi. Il y en a d'autres, parfois, c'est plus isolé au niveau de parking ou sur la route, ce genre de choses. mais à chaque fois que ça s'est fait vers les lycées, c'était avec une intensité en termes de quantité de tags qui était assez impressionnante. Ça s'est déjà fait évidemment. Souvent, c'était des lycées qui étaient visés parce que c'était des lycées de banlieue. Il y en avait notamment un à Damaillis, qui est à côté de la gare de Melun, où là, c'était dans toute la rue, et même au-delà, on se baladait encore ailleurs, on en retrouvait des RDB un peu partout. Et là, c'était des slogans SS écrits en allemand. Ah oui. Je pense que c'était une personne qui se connaissait bien. Enfin voilà, en sachant qu'à Melun, il y a une branche satellite de Assas. Donc, qui dit Assas, qui est une école, une université de base très à droite, dit bah, forcément on retrouve l'Action française aussi à Melun qui était Assas. Désormais, on retrouve surtout la cocarde qui est dans le secteur d'Assas à Melun. Et donc, jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème direct. Il y a aussi l'université de Champs-sur-Marne dans laquelle on sait que la cocarde essaie de se mobiliser, mais ils ne font pas grand-chose au final. Et la plupart des étudiants sont plutôt opposés à la présence de la cocarde. Mmh. Je sens que c'était des étudiants de Champs-sur-Marne qui nous avaient envoyé un message via les réseaux sociaux. Donc,
okay. Voilà. C'est aussi une question que je me posais par rapport à... Bah, comme tu as dit, les FAF, ils ciblent beaucoup tout ce qui est université et lycée. Parce que on sait que la jeunesse, c'est un terreau qui est propice au militantisme, qu'il soit de gauche ou de droite. Comment est-ce que vous gérez ça? Quelle approche vous avez par rapport au militantisme jeune dans votre association?
Nous, on n'a pas beaucoup de personnes qui sont dans notre association. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont jeunes avec qui on travaille pour différentes raisons, mais on n'est pas spécialement fermé à ça. Mais après, il y a quand même une question qui nous importe pas mal, qui est les risques exposés à des personnes, surtout à des lycéens, donc des personnes potentiellement mineures. Il y a cette question-là. Il y a aussi la question qu'on n'a pas envie, entre guillemets, d'embrigader des jeunes, mais on a quand même envie de leur apporter une vision antifasciste, de leur montrer que devant leur lycée, quand il y a des tags qui est écrit « tuer », pour faire simple, il y avait des tags « tuer les Algériens », »,« tuer les LGBT », on a envie d'être présent pour dire que non, il y a des gens qui sont présents pour répondre à ça. Et derrière, on a envie de leur transmettre le message de « organisez-vous, prenez part à la lutte et de façon autonome ou non, mobilisez-vous sur ces sujets pour vous défendre vous-même, en fait ». Mais après, quand je dis vous-même, ça peut passer par le fait de rejoindre d'autres organisations comme la FAF 77.
par exemple,
ouais. Et de se mobiliser ensemble parce que la solidarité, le fait d'être plus nombreux, c'est quand même nécessaire, je pense, pour lutter contre ce genre de problème.
Ok. Et justement, en rapport à ça, typiquement, quand vous menez des actions, on vous a signalé des choses ou quand vous organisez des rassemblements ou vous êtes présent pour des collages, comment sont les réactions type des gens? J'imagine que ça diffère aussi en fonction des villes où vous menez vos actions, mais c'est quoi à peu près l'accueil que vous avez en tant qu'organisation antifasciste, et plus ou moins seule organisation vraiment antifasciste de Seine-et-Marne?
Comme tu l'as dit, en fait, ça dépend vraiment des secteurs et même des quartiers dans les villes, ce qui est assez intéressant. Parce qu'il y a des villes dans lesquelles on a déjà collé fait différentes choses contre l'extrême droite. Il y avait des gens qui passaient à pied en nous disant super, bravo les gars, etc. Il y a des gens qui nous klaxonnaient en nous faisant des mains pour nous dire bravo, etc. Et dans la même ville, un peu plus loin, peut y avoir un vieux qui vient nous dire l'islamo-gauchisme et le wokisme, qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça va vraiment différents de quartiers. Après, si on prend Fontainebleau, par exemple, là, on sait que les affiches, elles sont très vite arrachées. Ça va être la réaction diamétralement opposée d'applaudissements. Donc, ça va plus être des injures, ce genre de choses.
Ouais.
Donc, c'est le genre de réaction qu'on a. Je prends l'exemple d'un lycée devant lequel on était intervenu. Donc, en tout, je crois qu'il y a eu deux ou trois lycées qui se sont refait taguer par des tags fascistes. Mmh. Voire peut-être même un peu plus. Après, il y a peut-être des signalements qu'on a pas reçus, justement. Mais les Les lycéens, généralement, étaient très contents. Mmh. Je pense qu'il y avait il y en avait certains qui ne comprenaient pas, d'autres qui étaient dans le... la surprise, qui ne savaient pas comment gérer, etc. T'en as qui nous ont pris en vidéo, toutes ces choses assez marrantes. Et ce qui est intéressant, c'est que... on sait que, tout à l'heure, je parlais du fait de prendre le relais, de se te défendre. Mmh. On sait qu'il y a certains lycéens qui sont repassés par-dessus des tags qu'on avait ratés et qui sont repassés dessus avec leurs moyens. Mais ça fait toujours plaisir de voir que les lycéens, en fait, se mobilisent sur ces questions-là. Après, on voit qu'il y a beaucoup de questions, de questions entre guillemets de pédagogie, de sensibilisation, je ne sais pas comment dire, à faire. Mm-hmm. Parce que, ça c'était une anecdote qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait énormément de tags racistes et homophobes. Mm-hmm. Et alors qu'on avait collé des affiches, justement du PQA, qui sont des affiches sur lesquelles il y a clairement écrit contre le racisme, mais aussi contre les luttes LGBTQ-phobie, eh ben, on sait que des lycéens ou des collégiens peut-être ont arraché des affiches pour écrire au stylo BIC, donc évidemment mm-hmm. des collégiens ou des lycéens. L'extrême droite vous emmerde, on suppose ayant associé, s'être associé plutôt à l'extrême droite parce que étant LGBTQ-phobe.
Okay. Oui, c'est vrai que c'est des... Bah, comme tu l'as dit, c'est des luttes qui sont un peu plus marginales et qui peuvent être considérées comme moins prioritaires. Tu as parlé un peu du PQA, on a vu que c'était un lien depuis quelques années entre vos deux orgas. Vous organisez des collages en commun, vous tenez des tables à des concerts en commun. Comment s'est fait cette connexion? Peut-être tu peux nous en parler un peu plus ouais. sans rentrer dans les détails. Mais...
Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il faut savoir que le PQA, c'est pas un groupe qui existe vraiment, pour la blague. Non, plus sérieusement, ça s'est fait principalement de façon affinitaire avec des membres qui étaient présents à la fondation de l'AFA 77. Ça s'est fait de façon affinitaire, ça s'est fait par secteur géographique parce que ça aide toujours. Mmh. Paris c'est proche de tout entre guillemets, donc forcément la question géographique ça règle le problème. Et après ça s'est fait je pense par des rencontres sur des lieux de lutte, manifestations, concerts, je suppose, enfin voilà.
Ok, ouais, on a vu du coup que ça vous est arrivé dans ce cadre de collaboration inter-orga d'aller organiser des collages ailleurs que dans le 77.
Alors c'est déjà arrivé, après là de tête je pourrais pas citer les endroits parce que voilà je les ai pas en tête, mais oui c'est déjà arrivé de refaire des collages ailleurs parce que comme on a dit, même si on essaie de délocaliser de Paris, on bouge quand même parfois dans mmh. Paris. Il y a parfois on va être présent dans les départements adjacents parce que n'empêche que les RER, par exemple la D ou la A, ils passent pas que dans la Seine-et-Marne. Mmh. Que ça soit avec le PQA ou d'autres organisations, on essaie de collaborer avec les syndicats, on essaie de soutenir les syndicats, on fait tourner les caisses de grève des syndicats pendant les manifestations. Mmh. Donc en échange de stickers, de ce que vous voulez en fait à prix libre, et l'argent est reversé aux caisses de grève. Donc on essaie vraiment de soutenir aussi les autres syndicats, notamment les autres syndicats, les autres organisations en général, dont les syndicats. Et je crois que voilà.
Ouais, bah c'est quelque chose qu'on a pu voir aussi sur vos différents réseaux, cette solidarité inter-orga. Notamment, t'as évoqué les caisses de grève pendant les manifs. Donc c'est les manifs parisiennes, on a vu du coup que vous aviez des caisses de grève... Pour des syndicats, en échange de stickers ou de sucettes, par exemple.
Ouais.
je trouve un bel exemple de solidarité inter-orga et de travail inter-orga. Je pense qu'on l'a déjà beaucoup évoqué, que vous travaillez beaucoup avec d'autres organisations, qu'elles soient locales ou un peu plus centralisées sur Paris. Est-ce que c'est aussi lié au fait que vous êtes... une petite entre guillemets association, avec du coup c'est plus pratique de collaborer avec d'autres organisations, ou bien peut-être que c'est aussi par idéologie en fait, des points qui se rapprochent entre organisations. J'imagine que c'est un peu des deux, mais peut-être que tu peux nous expliciter un petit peu.
C'est exactement ça, c'est un peu des deux. Alors, dans un premier temps, on n'a pas la force, juste en tant qu'assos, de s'opposer dans toute la Seine-et-Marne au fascisme, à l'extrême droite. Mmh. Typiquement, la contre-manifestation à Melun, on n'aurait pas pu l'organiser sans la CGT. Enfin, on aurait pu l'organiser, mais on n'aurait pas été aussi nombreux sans la CGT. On n'aurait pas été aussi nombreux avec 2-3 gars. Je pense aussi sur la question idéologique. Ça implique pas mal de choses, le fait notamment qu'on veut radicaliser les organisations. Les soutenir, c'est aussi une façon de montrer que les antifascistes, ils sont présents en soutien aux autres luttes et donc de créer une connexion. J'ai envie de dire même un effet de confiance. C'est-à-dire que les autres organisations savent qu'ils peuvent nous faire confiance parce qu'on est là pour les aider s'il y a besoin. Mmh. Après, ce qui est intéressant, c'est que la réciprocité existe. Et pour l'instant, jusqu'à présent, elle a toujours existé quand on a aidé des organes ou des retours quand on avait besoin. Après, évidemment, on va privilégier certaines orgas, certaines structures dans la question de l'entraide, que ce soit pour des questions géographiques ou idéologiques. Parce que généralement, les partis, globalement, on travaille un peu moins avec eux. On les aide un peu moins parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'autant d'autres aides.
Ouais.
Donc, généralement, c'est plutôt les syndicats qu'on aide et les plus petits collectifs ou les plus petites organisations.
Ok. Ouais, bah. Ça résume assez bien enfin, ton explication. Comme tu l'as dit, du coup, c'est pas à sens unique ce soutien. On a vu du coup que cette année, vous organisez votre événement du 8 mai. Avec, du coup, si je ne me trompe pas, Sud 77 et la CGT 77.
Ouais, c'est ça.
Et sûrement d'autres organisations signataires à l'avenir.
C'est ça.
Du coup, c'est un soutien. Comment est-ce que vous l'accueillez, ce soutien-là, de la part des syndicats ou autres organisations
Bah, nous, on le voit comme une victoire de ce qu'on espérait faire en Seine-et-Marne. C'est-à-dire une radicalisation, entre guillemets, des différents groupes, des différents collectifs, mais aussi une implication de la question antifasciste. Mmh. Donc, comme tu as dit, dans les organisateurs, il y a la CGT solidaire. Mais dans les signataires, on va aussi retrouver la FSU. Il y a, sans surprise, le DAL. Il y a d'autres collectifs plus petits. Il y a des associations comme Turbulence.
Tu peux présenter un petit peu, pour les personnes qui ne connaissent pas toutes ces associations.
Ouais. Alors, le DAL, c'est le droit au logement. C'est une asso qui est présente nationalement, mais forcément plus ou moins dans certains secteurs. C'est une asso qui, comme son nom l'indique, en fait, va aider les personnes à trouver des logements dignes, qui a déjà fait des actions d'ouverture de squats ou ce genre de choses. Et c'est une association qui est extrêmement mobilisée sur la loi Darmanin, par exemple, ou la loi Kajbarian aussi, qui est une loi contre le logement globalement, mais sinon qui s'appelle la loi, qui est une loi anti-squat.
Ouais.
Et souvent, les personnes exilées, les personnes sans papier sont concernées par la situation des squats, etc. Il y a Turbulence. Turbulence, c'est une association qui essaie de lutter sur des discriminations dans différents secteurs. De base, c'était surtout dans l'aide aux sans-papiers, mais elle essaie de se diversifier sur des questions féministes et sur la lutte contre la LGBTQ-phobie. Après, on sait que c'est des secteurs, leur association, entre guillemets, qui sont ouverts récemment, mais ça témoigne d'une volonté de s'y ouvrir. FSU, bah, c'est un syndicat qui est surtout un syndicat dans l'éducation. Mais en sachant que des gens de FSU nous ont contactés et en ayant témoigné d'une volonté d'être signataire et d'être présent, ou de parfois nous en appellent à nous pour des événements de reconquête à Nemours, par exemple. Ce qui montre quand même que le fait que des syndicats qui ne soient pas des syndicats trop radicaux comme le FSU contactent des antifascistes pour leur demander d'intervenir, donc là je fais un petit aparté, d'intervenir contre un événement de reconquête à Nemours par exemple, ça montre d'une volonté entre guillemets de radicalisation et d'un besoin de l'antifascisme dans les luttes. Et donc après il y en a d'autres, je ne les ai pas tous en tête, enfin, je regarde, après je ne sais plus, mais il y en a. Après, sinon, ça reste des collectifs comme des collectifs contre les CRA, comme Abat les CRA. Il y a le PQA. Et je ne sais plus. Il faudrait que je regarde vite fait. Mais voilà, ça, c'est à peu près le type d'organisation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des organisations très radicales parfois, jusqu'à pas radicales du tout.
Ouais, c'est une grosse diversité, finalement, d'acteurs de gauche
c'est ça.
Dans ce milieu-là. Finalement, c'est un petit peu un signe assez positif d'un de vos objectifs, que tu as évoqué plusieurs fois, qui est finalement d'être une passerelle. On peut se dire que l'organisation de ce... Là, du 8 mai antifasciste avec plusieurs collectifs, c'est vraiment une... c'est un témoin que il y a finalement une grosse diversité d'acteurs qui vont prendre part à vos luttes.
Ouais.
Je pense qu'à ce niveau-là, c'est assez encourageant finalement pour votre association.
Ouais, bah c'est encourageant, notamment qu'on n'a pas l'ambition d'être une grosse AFA, d'être une grande AFA en étant hyper nombreux et en sortant dans la rue pour chasser du faf. Nous, notre but, c'est plus ce qu'on réussit à faire, c'est-à-dire de pousser les organisations, les grosses associations ou organisations à se radicaliser et à se rejoindre en fait aux plus petits collectifs, les organisations qui font un travail de terrain qui est généralement assez remarquable et qui est nécessaire. Et qui permet de ne pas faire de concessions sur la question antifasciste, et en sachant que le fascisme menace aussi les droits des travailleurs, etc. Ça permet d'avoir une lutte qui est, je pense, propice à l'anticapitalisme. Je sais que justement tout à l'heure on parlait des autres collectifs et du fait de sortir de Seine-et-Marne. Je sais qu'il y a aussi le 91 Gras, donc le groupe antifasciste d'Essonne, qui vont être signataires aussi.
Okay.
Et qui devraient être présents aussi, et ce qui permet de créer des connexions entre départements et de poursuivre cette délocalisation à l'extérieur de Paris.
Peut-être pour... je pense qu'on a fait un gros tour de votre association, peut-être histoire de conclure, je pense. Sauf si tu as d'autres gros sujets à évoquer. Mais sinon, peut-être tu peux nous en dire plus un petit peu sur comment est-ce que vous voyez le futur de la lutte en général, en tant qu'association, et ensuite... plus particulièrement le futur de votre association et de vos luttes à vous, comment vous comptez mener les différentes luttes à l'avenir.
Ouais. Faut savoir que nous, on est une association qui est justement, comme je disais plusieurs fois, un but très culturel, très d'assumer l'antifascisme, de le populariser, etc. Ce qui fait qu'il y a des personnes de tout âge différent, pour faire simple, et donc il y a des personnes qui ont besoin de continuer leur vie à côté. Donc, on a l'espoir de faire perdurer cette assoce en étant assez nombreux, avec du renouvellement, pour faire simple, de nouveaux membres, ce genre de choses, ce qui fonctionne plutôt bien. On n'a pas la volonté d'être hyper nombreux, comme je disais avant, mais de continuer des actions de sensibilisation dans des MJC, des actions des initiatives plus que des actions pour pousser d'autres organisations comme les syndicats à se mobiliser sur certaines questions. Ça, c'est ce que je pense qu'on va continuer, ce qu'on fait, essayer de renforcer les liens, renforcer les connexions. Ça, c'est pour nous aussi de continuer la veille antifasciste, parce qu'on essaie de faire pas mal de veille antifasciste qui est disponible sur notre site, actionantifa77.com. En dehors de ça, plus généralement sur la question de la lutte antifasciste, on a quand même l'impression que le fascisme se renforce idéologiquement et diffuse ses idées, mais qu'en opposition, il y a quand même un grand mouvement qui est assez divers, mais on va dire que c'est un mouvement qui est... en tout cas, c'est ce qu'on dit souvent, que chez les personnes plus jeunes, enfin chez la jeunesse, il y a des idées extrêmement antifascistes, extrêmement présentes. Donc ça donne du courage, pour faire simple. Mais on n'oublie pas quand même que Marine Le Pen était au second tour, que c'était serré avec Macron, qu'aux prochaines élections, il y a des chances qu'elles puissent passer, etc. Et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Mais ça fait partie des choses sur lesquelles on se réjouit, c'est que quand on voit que les syndicats se mobilisent aussi partout contre le SNU, en plus de la réforme des retraites, ça montre qu'il y a une radicalisation qui tend à gauche, que le mouvement ouvrier prend conscience du danger du fascisme, qui veut s'y opposer. On voit bien que justement l'extrême droite n'a jamais soutenu le mouvement des retraites. Alors on peut peut-être citer l'Action française qui a fait un blocage à Poitiers, je crois, mais Voilà, ça, faut le sort, faut le remettre dans son... dans un but de l'Action française locale, etc., ouais. Qui est vachement différent, surtout que sur le terrain, ça s'est passé un peu différemment. mais sinon, c'est que l'extrême droite, elle s'est attaquée aux syndicalistes à certains endroits, que finalement, elle préfère se mobiliser sur d'autres questions que sur la réforme des retraites. Je ne vais pas refaire tout le programme de Marine Le Pen, ni de Zemmour, mais que en France, en tout cas, il faut se bouger, il ne faut pas les laisser passer. Et je ne sais pas si les élections, ça va être un barrage. Je ne sais pas si ça va être utile ou non.
On a le temps, de toute façon.
Oui, voilà, on a le temps de voir quand ça évolue. Parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver, qui vont aussi rajouter du bordel, pour faire simple. Et après, internationalement, la question elle est encore plus complexe. Parce que je pense que ça dépend vraiment des pays. Il y a des endroits où il y a de l'espoir, il y a des endroits où il y a moins d'espoir. Donc je pense qu'internationalement, il faudrait faire une émission exprès pour ça, ou faire une émission sur chaque pays au final. Parce qu'après, mais par contre, ce qui est intéressant sur l'antifascisme internationalement, c'est qu'il y a quand même une solidarité antifasciste qui est internationale. Mmh. Il y a des réseaux internationaux qui existent, qui se créent, ou en tout cas qui se mettent en place à différentes échelles. Par exemple, on parlait des concerts de soutien tout à l'heure. Les concerts de soutien, ça peut aussi être pour d'autres personnes qui n'habitent pas en France, ça peut être pour des militants d'autres pays. Et ce qui montre que la solidarité n'a pas de frontières et que c'est assez utile et nécessaire de rester solidaire et internationaliste.
Okay. Voilà. Et peut-être plus localement, comment est-ce que vous envisagez le futur de votre lutte en Seine-et-Marne à votre échelle, on va dire?
Bah, à notre échelle, on pense qu'on va essayer de continuer, on va essayer de se développer un peu plus. Nos objectifs, c'est que comme la Seine-et-Marne, c'est très grand, c'est de réussir à être présent sur, plus régulièrement sur certaines portions de la Seine-et-Marne, et plus intensément, on va dire, surtout. Continuer d'être en réaction à l'antifascisme, essayer de gratter du territoire, par exemple à Fontainebleau, essayer d'être plus présent à Fontainebleau ou dans d'autres secteurs plus éloignés dans lesquels on est très peu présent. Après, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas forcément assez de force et de mobilisation pour à nous seuls envahir Fontainebleau, mais peut-être qu'avec l'aide d'autres organisations, on peut apporter une présence antifasciste.
Ok, merci beaucoup. Je pense que ça répond bien aux problématiques qu'on a soulevées. Je sais pas si tu veux ajouter des infos ou des choses à dire sur votre assos.
Non, peu importe d'où vous soyez, peu importe où vous êtes, soutenez vos antifas locaux. N'hésitez pas à soutenir les syndicalistes contre la réforme des retraites, à vous mobiliser contre la réforme, contre la loi Darmanin, je veux dire, contre la loi Cache-Borien, dont on n'a pas trop parlé, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Et organisez-vous.
Voilà. Okay, merci beaucoup. Je pense que pour les 15 minutes qui nous restent, on va vous diffuser un peu de musique. Et puis, merci à toi d'avoir répondu présent pour représenter ton association. À l'avenir, pour nos prochains créneaux, on essaiera de vous représenter ce format-là avec d'autres associations, d'autres organisations. Écoutez, il nous reste 15 minutes d'émission sur Radio Lab. Donc, nous, on va vous laisser, et puis on va vous laisser avec un petit peu de musique pour la suite. Voilà.
Merci à tout le monde.
dummy. It's rolling round the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antonio. Prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it over a little farther down the line, yeah. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Drinking coffee and smoking big cigars. But I knew I had it coming. I know I can't be free. But those people keep on moving, and that's what touches me.
For someone to rock and roll. that you may be. But don't throw it all away. I don't wanna be the one who's gonna have to beg you to stay. I don't wanna be the one to change your mind. One more time, please stay.
Resistance is getting